a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de l'émission Géopolitique avec notre spécialiste Serge Tizi.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique étrangère de Donald Trump, qui déclarait la semaine dernière couper les aides aux trois Mexiques, parce qu'il voit trois Mexiques, lui, sur la carte du monde. Il voit en fait des Mexicains partout. Trump, donc, ce 45e président des États-Unis, qui ne vit pas à la Maison-Blanche, mais dans son parc à Mar-a-Lago, en Floride. Trump, l'homme qui tweete plus vite que son ombre, l'homme qui ne porte pas l'ombrelle pour protéger sa douce aimée de la pluie et des intempéries. Bref, nous allons voir ensemble ce qui se passe dans la tête de ce dirigeant politique et sa vision de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique.
Dire la victoire du Make America Great Again.
Cher James, nous étions donc habitués à plutôt Yes We Can. On en avait tapissé même nos murs parfois avec la photo de Barack Obama. Mais en fait, depuis son élection le 8 novembre 2016, donc Donald Trump a mis en avant le Make America Great Again. Ce qui nous apparaît comme une rupture montre en fait les idées majeures de sa diplomatie, de la puissance américaine, en tout cas de la vision que Trump a de la puissance américaine. Cependant, il faut revenir un peu sur l'histoire, et déjà on voit que le Make America Great Again, pardon, résonne comme le slogan reaganien de 1980, America's Back. Cet acteur macartiste qui succéda au malchanceux vendeur de cacahuètes Jimmy Carter, jugé lui trop social, trop mou, trop disco, a donc mis en avant le retour des États-Unis d'Amérique. Rien ne se fait sans la puissance américaine. Rien ne se fait contre elle sans qu'elle ne réagisse. L'Amérique rebondit toujours, c'est sa destinée. Voilà l'idée qui émerge par le Make America Great Again. Pendant l'America Great, est synonyme de d'exemplarité, de domination. Ce fait est entendu depuis la conquête de l'Ouest, et où Columbia, la Marianne américaine, chasse pour les anglo-saxons, notamment les Amérindiens, jugés pas civilisés du tout. Cette domination est devenue continentale avec la doctrine Monroe. La défaite française de Napoléon III au Mexique et celle du Sud alliée à la France et à la Grande-Bretagne contre le Nord industriel de Lincoln a laissé la place libre pour les États-Unis d'Amérique. Cette domination est quasi totale avec l'élimination continentale de l'Espagne par les États-Unis. La domination ne devient mondiale qu'avec la Première Guerre mondiale. En effet, en 1918, les États-Unis sont les créditeurs des puissances européennes où ils investissent en fonction de leurs intérêts. L'isolationnisme, que l'on décrit souvent dans les livres d'histoire après 1920, n'est en fait que vis-à-vis de la SDN. Les États-Unis sont toujours intervenus dans les affaires du monde, que ce soit en Europe dans les années 20 ou dans les années 30. Et notons bien quand même que la crise de 29 est née, elle, en 1918, et elle est devenue mondiale parce que les États-Unis étaient déjà une puissance mondiale. Quant au Again, ça peut se comprendre aussi par un courant décliniste que nous observons aussi chez nous en France. Le avant c'était mieux, il suffit d'écouter les discours de Zemmour. Alors que jamais l'Amérique n'a été si forte qu'aujourd'hui. Première puissance économique, première puissance culturelle, leader dans l'intelligence artificielle, leader par ses GAFAM, je rappelle ceux qui ne payent pas d'impôts chez nous, c'est-à-dire les Google, Amazon et tout ce qui s'ensuit là. Donc c'est aussi la première puissance militaire, sans conteste. Again, par rapport à quoi? Par rapport à quand? Par rapport à qui? On laisse le flou. En tout cas, Trump et son administration et ses aficionados laissent un grand flou. On ne sait pas par rapport à quand ils ont été again, ils doivent être again, quelle était l'époque dorée dont ils parlent. On n'en sait rien. Est-ce que c'était la période des années 20, avant Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt? Est-ce que c'était la période où ils chassaient les Indiens avec les cowboys? Donc, tout ça, on n'en sait rien. Peut-être les années 50, je sais pas, peut-être une réminiscence de la jeunesse de Donald Trump avant qu'il échappe, lui, au service militaire au Vietnam. En fait, on n'en sait strictement rien.
Trump est-il une surprise ?
Trump est certainement une surprise pour bien du monde dans le monde occidental. Mais en fait, il ne l'est pas pour une partie de son électoral républicain qu'il a fait gagner contre plus diplômés, plus qualifiés, face au gouverneur Bush de Floride qui avait normalement les sondages pour lui. Il a ensuite gagné contre Hillary Clinton. Certainement une mauvaise campagne sur la fin puisqu'elle a peut-être eu sous-estimé l'adversaire. Faute aussi de Barack Obama qui n'a pas réussi à imposer sa marque lors de son dernier mandat face au Congrès qui, lui, était déjà républicain. C'est une surprise à moitié. Il est quand même le porte-parole de cette Amérique qui croit dans la Bible, qui est héritière des Tea Party de Sarah Palin, qui reprend aussi les idées macartistes, c'est-à-dire une lutte sans vergogne contre tout ce qui de près ou de loin ressemble à du socialisme, y compris des panneaux solaires. Ça, c'est socialiste, il faut imaginer un peu le délire. Et ceux qui pensent aussi qu'il faut baisser toutes les taxes, notamment pour les riches. Il a donné un cadeau de plus de 1000 milliards de dollars aux riches en faisant croire à la classe moyenne et populaire qu'il était pour eux. Bref, c'est quand même une vieille histoire qui revient, qui nous date quand même de Reagan. Et avant lui, il y en a eu d'autres, donc qui rompaient, et de Hoover avant Franklin Delano Roosevelt. Il rompt complètement avec cette idée keynésienne qui est que chacun paye des impôts pour tout le monde. Et il rentre en fait dans ce schéma de ce qu'on a déjà entendu aussi chez nous, ce ruissellement qui devrait venir sur les pauvres, parce que vous donnez aux riches. Bref, il est dans cette mouvance-là. Il est une divine surprise aussi pour tous les extrémistes en Europe, puisqu'on est en Europe avec Salvini, avec Marion Maréchal Le Pen qui peut parler à une conférence des conservateurs, avec Marine Le Pen qui reçoit le soutien idéologique et structurel de l'ancien conseiller de Trump pour son élection. Bref, nous sommes ici dans quelque chose qui est une tendance à trouver aussi aux États-Unis que Washington, en fait, c'est l'ennemi. Bon, ça, c'est peut-être un peu bizarre pour nous, Français, puisque c'est un peu comme Paris. Paris, c'est il y a les Parisiens, et puis il y a la province, il y a le centre, et puis il y a la périphérie. Bien, pour les admirateurs de Donald Trump, la véritable Amérique n'habite ni Boston, ni New York, ni San Francisco, ni LA. Elle habite les petites villes américaines. C'est les petits travailleurs, c'est les sans-grades, ceux qui ne vont jamais en voyage. Voilà, ça, c'est l'Amérique selon Trump. Du moins, c'est ce qu'il veut faire croire. cet état d'esprit que nous retrouvons et cette idée, fustige donc les élites contre le peuple, a remporté victoire sur victoire. Le Yes We Can s'est traduit en définitive par un Yes I Can, c'est-à-dire pour Trump lui-même. C'est aussi pour lui et sa chaîne Fox News, dirigée par Rupert Murdoch, l'Australien propriétaire du Sun et autres tabloïds britanniques qui ont poussé au Brexit, une revanche contre, eh bien, disons-le hein, clairement, un président noir.
And there's no going back. Highway patrol choppers coming up over ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The way it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost.
Trump, quelle est sa vision du monde et le rôle des USA ?
Trump n'est pas un idiot. Il suit une idéologie. Cette idéologie remonte à très loin, mais le dernier en date qui en a fixé les principes, c'est Samuel Huntington dans les années 70, lorsqu'il écriva qu'on était dans une phase où, après la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, on allait arriver à un conflit des civilisations. Donc notamment civilisation musulmane contre le reste du monde, et contre une civilisation chrétienne qui était donc aux prises avec ces différentes civilisations. Ainsi s'explique aussi l'idée de ce mur, entre le Mexique et les États-Unis. Notez bien que le mur n'existe qu'entre le Mexique et les États-Unis, il n'existe pas entre le Canada et les États-Unis. Il s'agit bien en fait d'une vision, on va dire, pour le moins un tout petit peu racial, du conflit des civilisations. C'est-à-dire que tout ce qui vient du Canada et qui ressemble à un wasp, même s'il parle canadien et qu'il s'appelle Céline Dion, est librement accepté aux États-Unis à chanter à Las Vegas. En revanche, si vous êtes un petit hispanique venant du Chili, du Guatemala, du Mexique, voire même du Brésil, à ce moment-là, le problème se pose. Le problème se pose d'une invasion. Voilà ce dont ont peur les Américains qui ont voté pour Trump, l'invasion. Le grand remplacement dont on parle souvent ici en France et encore aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Chers auditeurs, je vous invite à regarder Game of Thrones, où vous avez un mur du nord là qui doit être absolument défendu, où en fait tous les rois et les reines sont entourés de murs. Eh bien voilà, nous avons un monde, chers auditeurs, qui se construit avec des murs. Alors on parle souvent du mur américain, mais n'oubliez pas que nous avons aussi un mur européen. Il est à Ceuta, il est à Melilla, dans les enclaves espagnoles du Maroc. Il est aussi entre la Grèce et la Turquie, et nous payons chèrement le cher Erdogan et les pays limitrophes du Sud pour éliminer le maximum d'immigrants que nous ne voulons plus. Voilà, et ça nous pose pas véritablement beaucoup de questions sur l'humanité et nos valeurs humanistes que nous mettons en étendard, surtout quand on se moque des États-Unis. Donc revenons aux États-Unis. Voici un pays bizarre, qui construit donc un mur depuis en fait George W. Bush, l'autre président un peu comique, qui avait même menti aux Nations Unies lui-même pour envahir illégitimement un pays qu'il nommait l'Irak, et qui a donc créé un chaos dont nous connaissons encore aujourd'hui les affres et les conséquences dramatiques pour les populations du Moyen-Orient. Bien, alors revenons à ce George W. Bush. George W. Bush, en 2006, c'est lui qui a fait construire le premier mur avec le Secure Fence Act, contre l'avis à l'époque de 53% des Américains. Donc, vous avez aujourd'hui un mur qui a 1800 tours de surveillance et 18 000 hommes sont mobilisés pour la surveillance de 1300 km sur les 3600 que comptent les États-Unis et le Mexique. Pour un coût, et écoutez-moi bien, parce que ceux qui veulent des baisses d'impôts, et même les Américains qui veulent des baisses d'impôts, devraient y réfléchir à deux fois, pour un coût de 20 et 40 milliards de dollars. Les États-Unis ont vécu au mois de décembre et janvier une pause administrative puisqu'on a un conflit entre le nouveau congrès dirigé par des démocrates et le président qui est donc républicain. Et donc la Chambre des représentants démocrates s'est opposée à une décision de Trump de financer pour le financement du mur entre le Mexique et les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Trump a trouvé une parade, c'est-à-dire qu'effectivement, il a trouvé la parade. La parade, c'est que c'est le ministère de la Défense américaine qui va donc payer sur le budget militaire la construction du mur. Ce qui lui permet en fait de contourner la décision de blocage de la Chambre des représentants américaine. Donc la promesse de Trump de faire payer par le Mexique, je vous rappelle quand même, c'est quand même assez dingue, c'était de faire payer en fait ce mur par les Mexicains. Alors autant vous dire que pour le Mexique, ils ont véritablement d'autres priorités entre la criminalité, les gangs, une police corrompue, un État en quasi-déliquescence qui ne maîtrise plus l'ensemble de son territoire. Vraiment, faut construire un mur pour le bénéfice des Américains ? Non. Alors d'autant plus que ce qui est paradoxal, c'est que ce mur se situe entre des pays qui sont normalement alliés économiquement. Je pourrais être très simple, en 1994, donc, a été signé, demandé en fait par les Mexicains, l'ALENA, c'est-à-dire un accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Les États-Unis de l'époque avaient trouvé l'idée géniale, puisque ça allait dans leur sens, puisqu'ils venaient de voir l'Europe se créer en Union européenne, et ils s'étaient dit, mais nous ne sommes plus les premiers économiquement, c'est l'Europe. Et donc ils s'étaient dit, bah, depuis, si on fait l'ALENA, c'est parfait, ça nous fait un accord de libre-échange, nos camions iront, nous pourrons prendre du pétrole aux Mexicains, nous pourrons prendre de l'énergie hydroélectrique aux Canadiens, nous pourrons prendre leur bois, nous pourrons prendre leur pétrole, nous pourrons prendre ce que nous voudrons, et nous ferons en fait un ensemble régional qui aura une puissance par rapport à l'Union européenne. Je rappelle les dates, 1994. Bien, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que la frontière entre le Mexique et les États-Unis est la frontière la plus active des États-Unis. C'est-à-dire que c'est bien au-delà du transport maritime et du fret maritime qui traverse le Pacifique pour aller aux États-Unis, c'est bien au-delà de ce qui se passe dans l'Atlantique. La frontière mexicaine, c'est la frontière de l'économie américaine. Alors, je vais donner juste quelques exemples. Vous avez 4,5 millions de conteneurs qui passent par an par cette frontière. Vous avez 5,7 millions de trains et de camions, j'ai bien dit 5,7 millions de trains et de camions, qui traversent cette frontière tous les ans. D'accord ? C'est principalement, notamment, dans les secteurs de Californie et du Texas. C'est vrai que l'Arizona, le Nouveau-Mexique, bon, n'ont pas véritablement grand-chose à offrir. De plus, depuis les années 60, c'est une zone qu'on appelle une zone de maquiladoras. Alors le système, je vais l'expliquer. Mettez une ligne sur une feuille, d'accord ? Au nord, vous avez les États-Unis, au sud, vous avez le Mexique. Bien. Je prends, par exemple, une bouteille. Le bouchon, je vais le faire construire au sud. La bouteille, je vais la faire construire au sud. Au sud, dans l'industrie qui me produit tout ça, j'ai quoi ? J'ai les pauvres paysans, exode rural. J'ai souvent aussi des femmes que je peux exploiter, parce que Maria ne fait pas grève. Maria, elle doit bosser pour nourrir ses enfants. Maria n'a pas de sécurité sociale, Maria n'a rien. Donc voilà, Maria, quand une entreprise américaine ou japonaise ou européenne, hein, parce que tout le monde y est un peu dessus, mais Maria, quand elle travaille, elle ne peut pas faire grève. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ces deux produits, le bouchon et la bouteille, qui sont produites au Mexique. Les bouchons et la bouteille traversent, d'accord, grâce à ces camions dont je parlais tout à l'heure, ces containers, traversent la frontière, et là, vous avez Pedro, le mari de Maria, qui, lui, a le droit, en tant que transfrontalier, de passer la frontière, parce que lui, il est payé moins qu'un travailleur américain. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, Pedro, lui, il va mettre de l'eau dans la bouteille, mettre le bouchon sur la bouteille, et là, vous allez au miracle de l'économie libérale et ultralibérale, vous allez pouvoir noter « Made in America ». Et ce « Made in America », c'est un tampon magique. Il vous fait passer tout. C'est-à-dire que l'Américain, il pense qu'il achète un produit « Made in America », alors qu'en fait, les éléments sont produits ailleurs, mais lui, il a « Made in America ». C'est un peu comme quand nous, on nous dit « Voilà, Renault est une marque française », alors que la plupart des véhicules sont faits en Slovénie, en Espagne, parce que bien sûr, la main-d'œuvre slovène et espagnole ou tchèque est quand même moins chère que la main-d'œuvre française qui ose réclamer un peu plus que 1 200 € par mois et des droits sociaux et des choses de ce type. Donc, on va aller voir ailleurs. Donc, les maquiladoras, voilà le système. Et ce système, il date depuis les années 60. C'est-à-dire que c'est pas une découverte de Trump, c'est pas Trump qui l'a mis en place, c'est le schéma. Bien, c'est un peu comme quand Toyota a été interdit d'entrer aux États-Unis. Ils ont monté une marque Lexus et ils l'ont fait fabriquer dans ces maquiladoras. Comme ça, Lexus a pu rentrer sur le marché américain à un moment où les Américains étaient très 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 fâchés contre le Japon. Bien. Le deuxième espace qui intéresse les Américains, ou en tout cas qui les intéresse de moins en moins, en fait, c'est l'espace européen. Alors je vais m'expliquer, parce que par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois dans l'émission précédente. Que veut Trump pour l'Europe ? Alors Trump pour l'Europe, lui, il veut que l'Europe soit des alliés. Il veut plus de Frenchies qui disent « Non, non, on va pas dans une guerre en Irak avec vous. » Il veut plus de ça, ça n'intéresse pas. Il veut pas non plus d'Union européenne, parce que ça le gêne, parce qu'une Union européenne, ça veut dire quelque chose qui serait plus fort ou aussi fort, en tout cas, que les États-Unis, et qui pourrait lui dire non. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est une Europe qui se réarme. Alors ça, c'est vrai, hein, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, il faut que vous réarmez. Le fait d'avoir des budgets à 1% de votre richesse pour l'armée, c'est pas suffisant, il faut être au moins à 2. Ce à quoi M. Macron a déjà répondu, oui, nous y sommes déjà. La Grande-Bretagne a répondu, oui, nous y sommes déjà. Et Merkel a dit, bon, nous, on n'y est pas encore et on veut pas y être. Ah, vous ne voulez pas y être, ben là, vous allez voir comment ça va se passer. Trump est clairement, en fait, pour une division des Européens. De là aussi, le fait qu'il ait envoyé Steve Bannon à travers l'Europe pour un peu influencer ou conseiller les partis comme RN chez nous, la Ligue du Nord, ces grands démocrates, Orban, hein, un grand socialiste, hein, comme tout le monde le sait, du côté de Budapest. Bref. Donc, nous sommes ici dans une Europe qui, pour Trump, doit être soumise, doit être aux ordres, doit servir les intérêts des États-Unis. Et quoi de mieux que le principe de Machiavel, divisé pour mieux régner. Trump dit les mots qui fâchent sur l'OTAN. Il dit, oh ben non, ben ça sert plus à rien, il faut changer. Alors, ben, clap, clap, hein, là, vous avez des tas d'applaudissements, hein, y compris du côté de chez Mélenchon. On dit, oui, plus d'Europe et tout ça. Ah, mais le seul problème, c'est que les Européens ne l'entendent pas de cette oreille. Pourquoi ? Ben, parce que les Européens ne sont absolument pas prêts à affronter qui que ce soit. Il y a véritablement que deux puissances militaires en Europe, c'est les Français et les Britanniques. Et les Français, même dans le Sahel aujourd'hui, vous avez qu'à lire la presse, eh ben, ils ont besoin des Italiens, ils ont besoin d'avions belges, ils ont besoin d'hélicoptères britanniques, ils ont besoin, voilà, on a besoin d'être ensemble, hein, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Ensemble, on est quand même plus fort que divisé, c'est normal, hein, essayez d'être un pilier dans une équipe de rugby, vous verrez ce que vous allez prendre si vous êtes tout seul à foncer dans l'adversaire. Bref, attention à ce que dit Trump. Trump n'est pas un idiot, je le répète, c'est un être qui est sensé, mais sensé à sa manière, à ses objectifs, à lui. Ce n'est pas une folie, c'est une idéologie politique, déjà vue notamment dans l'histoire américaine. Je vous renvoie aux essais de M. Henry Kissinger sur la réelle politique, c'est-à-dire que je suis ici pour les intérêts de mon pays. Je me bats pour les intérêts de mon pays et peu importe les valeurs. Les valeurs, on les met de côté. Business is business. Et le reste, on s'en moque. Les droits de l'homme, on s'en moque. Les Palestiniens ont le droit de rentrer à l'UNESCO. Paf, je enlève tous les budgets de l'UNESCO. On me critique au commissariat des droits de l'homme, aux Nations Unies, j'enlève les financements. Bref, c'est moi-je, et c'est surtout une idéologie très loin des intérêts collectifs. C'est des intérêts personnels, individuels, et c'est une individualisation, Trump, de l'Amérique. C'est-à-dire que l'Amérique représente qu'elle-même. Elle ne représente plus le monde occidental au sens où on l'entendait même avec Bush. C'est-à-dire que Bush, quand il va en Irak, il va pour, soi-disant, installer la démocratie. Du moins, on a une idéologie derrière qui pourrait sembler être positive. Là, il n'y a aucune envie d'imposer la démocratie nulle part. Au contraire, on est prêt à soutenir tout et n'importe quoi. Et ça, j'y reviendrai par la suite.
Mais alors, que veut Trump ?
Trump ou son administration, hein, parce qu'il a des conseillers autour de lui. Hein, c'est pas lui qui prend toutes ses décisions tout seul. Il a des conseillers, il en use, il en abuse. Il y en a beaucoup qui démissionnent. Conseiller à la diplomatie, conseiller militaire, conseiller aux affaires intérieures. Enfin, il y a des démissions en pagaille. Hein, voilà, il est dans une démarche très individuelle. Et mais aussi collectif, puisque derrière, il est quand même soutenu par toute cette tendance américaine très Sarah Palin, Tea Party, America First et compagnie. Bref, qu'est-ce qu'il veut ? En fait, il est pleinement conscience aussi, tout comme Obama, que le monde est en train de changer. C'est-à-dire que la suprématie américaine, l'hyperpuissance que décrivait Hubert Védrine après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire que les Américains étaient partout, les Américains devaient intervenir partout. Je vous rappelle quand même que quand il y a eu les massacres en ex-Yougoslavie, seule la France a bougé à l'époque. Hein, si vous vous souvenez, vous avez par exemple François Mitterrand qui est allé en hélicoptère à Sarajevo pour sauver les gens de Sarajevo. Vous avez Jacques Chirac qui avait dit « Bon, ça suffit les casques bleus, maintenant on met des véritables régiment, on met des canons et on tire dans le tas au premier qui ose moufter. » Mais tout ça, c'était avec le soutien américain. À l'époque, on attendait que les Américains interviennent. On ne pouvait pas, nous, Européens, intervenir tout seuls. D'ailleurs, notez bien qu'on ne peut toujours pas le faire. Hein. On essaye, mais on ne le fait pas. Parce que, je le répète, nous n'avons pas de président des États-Unis, d'Europe. Nous devons composer avec 28, puisque les Britanniques ont décidé de rester, 28 autres pays. Et donc, cette composition à 28, bah, ça nous laisse un peu sur le côté pour un certain nombre de choses. Bref, Trump, il a clairement conscience que le monde est en train de changer, qu'on est dans un monde multipolaire. Il voit bien que le Brésil augmente, il voit bien que l'Inde est en train de devenir une puissance. Il voit surtout la Chine, hein, dont je parlerai tout à l'heure, qui lui pose beaucoup de problèmes. Mais ça, le fait d'être en dehors des clous au niveau des valeurs, le fait de faire le business avant toute chose, le fait de ne plus réagir avec raison, est-ce qu'on a déjà entendu ça quelque part ? Je parle aux plus anciens des auditeurs et aux plus jeunes, je les invite à regarder des livres d'histoire. Mais souvenons-nous, pendant la guerre froide, au nord du Vietnam, sur la piste Ho Chi Minh, au Laos, en Cambodge, qu'ont fait les Américains sinon intervenir en dehors des frontières de pays et sans respecter les clauses des Nations Unies ? Pour le coup d'état militaire au Chili, dirigé par le général Pinochet, lié à la CIA, sous les ordres de Henry Kissinger déjà à l'époque, qui a décidé de tuer le socialiste Salvador Allende parce que le pauvre demandait juste une chose, c'était de privatiser des mines de cuivre pour payer des écoles gratuites pour les jeunes Chiliens et améliorer le sort de la santé des Chiliens. Il n'était pas communiste, Pinochet. Et en même temps, on fait copain-copain avec Mao Tse-tung. Hein, donc, vous voyez un peu le paradoxe. Voilà, il faut pas être contre les États-Unis dans un certain nombre de choses. Alors attention, hein, parce que j'entends aussi en ce moment des gens dire « Oui, Maduro, c'est comme Pinochet. Maduro, c'est comme Pinochet, n'exagérons quand même pas. Chacun a ses responsabilités. » Je dis pas que celui qui est en face est meilleur, parce qu'apparemment, il vogue aussi dans des endroits pas très sympathiques, avec des idéologies pas très sympathiques. Il faut toujours faire attention à ceux qui se clament de la liberté, des fois. Mais pour Trump, si on revient à lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur son soutien inconditionnel à Israël ? Comment ne pas être critique par rapport à quelqu'un qui est en train de remettre en cause les résolutions des Nations Unies ? Comment être d'accord avec quelqu'un qui est d'accord avec l'Arabie Saoudite ? Et j'invite les Français à bien réfléchir sur les relations que nous avons, nous aussi, avec l'Arabie Saoudite. C'est bien de vendre des canons, mais encore faut-il savoir sur qui ils tirent. Et pour l'instant, ils tirent que sur les Yéménites. Et son soutien à Modi en Inde, faut quand même faire réfléchir. Et son soutien à Bolsonaro, le nouveau président brésilien, celui qui veut buter les socialistes, un peu à la façon dont parlait Poutine à un moment donné sur comment est-ce qu'il fallait résoudre le problème tchétchène, où il avait dit « Oui, mais on ira les chercher jusque dans les chiottes et on ira les buter jusque dans les chiottes ». Bon, voilà, on est quand même face à des gens en ce moment dans le monde qui sont gravement malades, gravement violents dans leurs paroles. J'invite les auditeurs à bien réfléchir sur qui ils vont mettre leur voix la prochaine fois. La violence des paroles, ça amène souvent, me disait un vieux professeur d'histoire de géographie qui avait fait la résistance et tout ainsi, il nous disait la violence des paroles amène souvent la violence des actes. Faites très attention à ça. Quel est le devenir des Nations Unies ? Les Nations Unies, je rappelle, c'est une invention américaine. C'est Franklin Delano Roosevelt et son vice-président de l'époque qui avait écrit un livre One World dans lequel il déclarait que les affaires du monde devraient se régler autour d'une table de façon multilatérale et que toutes les nations seraient à ce moment-là présentes et pourraient donc clairement enlever toutes les misères du monde qui amènent les totalitarismes et qui amènent à la guerre. Cette idée... de sécurité collective, de collectivité ou de communauté d'esprit, de communauté de combat et qui était relevée par Franklin Delano Roosevelt et qu'on voit déjà dans sa politique du New Deal, eh bien cette politique tirée d'une idée wilsonienne que la destinée des États-Unis, c'est aussi d'éclairer le monde. Souvenez-vous, c'est cette statue de la liberté offerte par la France, Bartholdi, hein, ce deuxième pays, la France, qui devait éclairer lui aussi le monde. Je rappelle pourquoi on a une Marianne avec une torche sur la place de la République. Hein, c'est pas pour seulement éclairer l'ennemi debout ou les gilets jaunes, ou maintenant peut-être même plus maintenant les CRS que les autres. C'est surtout pour donner les droits de l'homme à l'ensemble de l'humanité. Tout ça là, avec Trump, c'est fini. Ce n'est plus le sens de la politique américaine. Je ne suis pas pour Trump, il n'est pas dans un isolationnisme. C'est faux de dire des choses comme ça. D'ailleurs, l'isolationnisme n'a jamais véritablement existé dans la politique des États-Unis, je le répète. Il est en fait pour un unilatéralisme, c'est-à-dire que c'est les États-Unis, ses intérêts d'abord qui priment, et ni une supposée réchauffement climatique, il fait moins 50 à Chicago, vous voyez bien, dit-il, vous voyez bien qu'il n'y a pas de réchauffement climatique puisqu'il fait moins 50 à Chicago. Bon, bien, alors il neige, c'est pas réchauffement climatique. Quel est son intérêt ? Son intérêt politiquement, c'est le sien. Je le dis, mais... ses affaires personnelles sont intimement liées à sa diplomatie. C'est la première fois que l'on a une fille, Ivanka Trump, qui le représente directement. Au G20, il n'a pas envie d'y aller, pouf, il envoie sa fille. Il décide que l'ambassade des États-Unis en Israël quittera Tel Aviv et se mettra à Jérusalem, mais c'est sa fille qui l'envoie. Et elle justifie sa position, alors que normalement, au niveau des Nations Unies, Jérusalem ne peut pas être la capitale d'un État quel qu'il soit. Donc, je suis ici, ou en tout cas, si elle devrait l'être, elle devrait l'être pour deux États, un État palestinien et puis un État israélien de l'autre côté. Mais voilà. Il est en fait pour une affaire personnelle, il en fait des affaires personnelles, il tweet personnellement, il a un rapport direct avec les dirigeants, il leur envoie des tweets, il répond par tweet. Dans son conflit avec Pyongyang, c'est moi qui ai la plus grosse bombe, ça a été quand même fait par tweet, enfin c'est quand même le seul qui dirige les affaires du monde de ce type. Quand il est par exemple avec notre président Macron, qu'il est très friendly, ne vous méprenez n'est pas sur son idée, c'est pas que Macron est son ami, hein. Il sait vraiment pertinemment que c'est pas son ami, mais c'est pour montrer à son électorat, à lui, mais regardez, je ne suis pas méchant, même Macron est d'accord avec moi, il est ami avec moi, we are the best friends in the world, bon bref, donc ils sont les meilleurs amis du monde, mais tout ça c'est de la stratégie politique, l'objectif, d'accord, parce qu'il y a la stratégie et il y a l'objectif. L'objectif de sa politique, c'est la puissance américaine et rien que la puissance américaine. Et quand il fait le gentil, ne vous méfiez-vous de sa façon de faire le gentil, c'est jamais pour être véritablement gentil. Parce que son véritable souci, son véritable ennemi, c'est la Chine. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Afrique, tout ça, ça l'intéresse pas. Il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il s'en moque. l'Afrique, il donne ça à gérer au Sahel, à la France, c'est très bien, la France joue très bien ce rôle, donc il a des alliés pour ça. Le Moyen-Orient, entre l'Israël, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, il maîtrise le Moyen-Orient, c'est pas un problème. En Afrique, il a des alliés aussi en Afrique, malgré son, on va dire, ses positions un peu racistes et tout ça, ensuite, surtout sa faculté à défendre les racistes. Il est quand même dans une situation où son ennemi majeur, c'est la Chine. Alors la Chine de Xi Jinping, là il est dans un conflit et il faut voir toutes ses prises de position dans le cadre de ce conflit-là. Quand il se fait copain avec Pyongyang, n'oubliez pas qu'est-ce qu'il y a à Pyongyang. La famille Kim, c'est une vieille famille alliée de Mao Tse-tung, alliée de Deng Xiaoping, alliée de tous les dirigeants chinois depuis 1948. Ils ont été sauvés, je rappelle, hein, dans la guerre de Corée, ils ont été sauvés par des volontaires chinois, en fait armés par la Chine et l'Union soviétique, pour aller chasser les troupes américaines et de l'ONU qui se battaient là-bas entre 1950 et 1954. Donc quand Trump fait à Miami, soi-disant, avec le dirigeant nord-coréen, c'est juste pour embêter la Chine. Quand il menace le nord-coréen, c'est pas tellement pour le nord-coréen, c'est bien pour montrer à la Chine, faites attention, si vous calmez pas votre copain, ça va mal se passer. Et les Chinois, qui sont dans une expansion économique, ou qui voudraient être encore d'une puissance économique, parce qu'ils ne peuvent pas encore être une puissance militaire et diplomatique, pour diverses raisons, mais d'un retard structurel, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se plient. Quand il dit, vos portables sont pourris, il y a des petites puces qui nous espionne. Alors franchement, ça fait bien rire, hein, parce que quand vous savez toutes les données que donne à l'administration américaine, Google, Microsoft, tout ce qui a été permis de piller comme information à travers le réseau Echelon, c'est-à-dire un réseau d'écoute internationale dans lequel sont mêlés la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada et l'Allemagne, ça fait doucement rigoler quand on voit les critiques américaines par rapport à des marques de téléphonie chinoises. Bien, donc Ces déclarations d'amour successives avec ces menaces successives vis-à-vis de Pyongyang, cette façon d'alterner, ce style, eh bien c'est un style qui rompt véritablement avec ce qu'on avait vu sous Obama. Mais est-ce que ça rompt avec d'autres présidents ? Juste un petit souvenir personnel. Lors de la crise des missiles en Europe dans les années 1979-1980, lorsque Ronald Reagan était président des États-Unis, ce président avait dit lors d'une interview, j'ai pointé les missiles sur Moscou. Ça en disait long comme menace, alors que les Russes pointaient leurs missiles aussi sur Paris et chez nous. Est-ce qu'on a dit que Ronald Reagan était fou? Non, on a dit qu'il s'était juste trompé. Est-ce que c'est véritablement se tromper que de réagir comme ça? En fait, non. D'un point de vue politique, c'est déstabiliser l'adversaire. Parce que ça avait déstabilisé les Russes, qui s'étaient dit, les Soviétiques à l'époque, qui s'étaient dit, mais ça y est, on a un fou, il faut vraiment qu'on se mette autour de la table avec lui et qu'on règle cette histoire de missiles, parce que lui, il va véritablement nous les lancer. C'est un peu le jeu qu'a joué Donald Trump avec Pyongyang, parce qu'il a dit, moi je vais te lancer un missile si jamais tu réduis pas tes missiles. Et la Chine a bien fait de toquer à la porte de Pyongyang, on dit, il faudrait que tu te calmes, mon grand, parce que, bon, avec ta coupe de cheveux et tout ça, ensuite, tout ça, ça peut être sympa. Là, on va trop loin. Si on lance la bombe atomique maintenant, on peut même pas riposter. Voilà. Et dans ce jeu, par rapport à la Chine, je vous invite aussi à regarder ce qui se passe au Pakistan. Le Pakistan qui, ces 10-15 dernières années, s'est largement rapproché de la Chine, étant donné qu'il rentre dans un schéma de route de la soie. Et les États-Unis, dans ces cas-là, quand il y a un rapprochement d'un pays, d'un ancien pays ami, hein, le Pakistan, enfin qui se dit encore ami des États-Unis, hein, bon, avec des degrés différents, mais lorsque le Pakistan se tourne vers la Chine, que font les États-Unis? Hop, ils se tournent vers l'ennemi du Pakistan, c'est-à-dire l'Inde. Ah, les Chinois me prennent pied au Pakistan, ben moi je prends le pied en Inde. C'est une justification de la politique aussi tempérée, on va dire, plus que tempérée vis-à-vis de Poutine. Trump a dans l'idée que Poutine ne peut pas être véritablement critiqué et surtout que ça serait bien que Poutine se détache un peu de Xi Jinping, tant qu'il n'y ait pas d'axe entre Moscou et Pékin. Ce à quoi l'administration américaine, voyant les réactions de son président, s'empresse d'aller voir les alliés de l'OTAN, notamment les Polonais qui sont terrifiés par ce qui se passe en Russie et surtout en Ukraine, et qui se disent nous on est les prochains, si l'Ukraine tombe c'est nous, et donc les Américains envoient une brigade vers en Pologne et dans les Pays-Baltes, histoire de calmer tout ça. Je reviens aussi sur les alliés de Trump, Orban, Bolsonaro, Mohamed Ben Salah, tous ces alliés là, c'est quoi? Ben en fait, si vous regardez bien, on est très loin d'avoir même des centristes. Hein. On est bien ici dans quelque chose qui ressemblerait plus à des ultra-conservateurs, pas dire des dictateurs en puissance, mais enfin, s'ils n'ont pas de contre-pouvoir, c'est ce qu'ils deviendront. Et donc, on a en fait une forme d'alliance là qui se fait. On a même Bolsonaro qui est allé voir Netanyahou pour lui dire « Ouh, je suis un allié ». Vous imaginez le Brésilien allié d'Israël. Bon, ok, d'accord, on peut être allié d'Israël, hein, pourquoi pas, on peut même être ami avec eux. Mais enfin, de là, ne jamais critiquer la politique israélienne, il y a quand même un monde. Et là, quand vous avez un autre dirigeant, Erdogan par exemple, qui je n'ai pas véritablement de sympathie, mais Erdogan qui dit bah, « Tiens, moi, je vais acheter des missiles russes ». Les Américains disent « Oui, mais là, tu vas nous acheter des F-35 ?»« Oui, oui. Ah non, il ne faut pas acheter des missiles russes si tu vas acheter du F-35. » Et quand vous avez Trump qui, tout un coup, lâche tous ses alliés en Syrie, qui dit « Bon, moi, je me barre. Hein, ça y est, c'est bon, les troupes américaines se barrent. » Et donc, nos services, nos commandos spéciaux français, britanniques, qui se battent aux côtés des Kurdes et qui voient tout un coup qu'il n'y a même plus d'Américains dans le secteur, du jour au lendemain, sans avoir prévenu aucun allié, ça dit quoi sur les alliés ? Bah, les alliés, ils doivent être au service des États-Unis, de Trump. Voilà ce qu'il faut.
Mais alors Serge, où est le soft power ?
C'est la puissance douce, c'est-à-dire que c'est l'autre facette de la puissance américaine. On a le big stick, le hard power, le militaire, l'économique virulent, conquérant, impressionnant, dominant. Et puis on a le soft power, c'est-à-dire cette Amérique que l'on aime d'une certaine façon. Hein, ce Far West idéalisé avec John Wayne qui a des valeurs. Je vais te donner un autre exemple. Le plus grand soft power, en fait, à l'heure actuelle aux États-Unis, vient des adversaires de Trump, les adversaires américains. Pas les autres, hein, pas les Européens, mais notamment les Américains. Vous avez une multitude d'Américains qui se bougent à l'heure actuelle et qui en ont marre d'avoir ce président. Vous avez, par exemple, Alexandra Ocasio-Cortez. Vous avez Bernie Sanders. Vous avez Elizabeth Warren du côté démocrate. Vous avez aussi des républicains qui commencent à dire « Bah non, là, c'est trop, là, ça va trop loin. » Et vous avez donc aussi des Amérindiens qui luttent pour le réchauffement pour lutter contre la pollution de leurs eaux. Vous avez des écologistes qui se battent en Californie, par exemple, ou dans d'autres États comme le Colorado, pour imposer des règles qui vont dans le sens des accords de Paris qu'a rejeté leur président. Vous avez des femmes et des jeunes qui manifestent contre les armes, contre ce machisme-là proche du MeToo. Parce que là, vous avez des scandales qui touchent personnellement le président des États-Unis qui sont autrement plus compliqués que les maîtresses de John Fitzgerald Kennedy. Hein. Donc vous avez un budget de la défense qui dépasse tout entendement. Est-ce que vous vous rendez compte que le budget annuel de la défense américaine représente ce que représentent les 40 premiers budgets autres de la défense ? C'est-à-dire que là, on est dans un truc incroyable, alors que vous avez une jeunesse américaine qui est surendettée avant même d'avoir commencé les études, parce que les études coûtent excessivement cher aux États-Unis. Vous avez une croissance continue et j'invite franchement notre gouvernement à réfléchir à deux fois désormais avant d'élever des taxes sur les étudiants, parce que franchement les étudiants c'est l'avenir. Hein. Alors quand on voit que les Américains aujourd'hui sont obligés, vous avez par exemple un État des États-Unis, le Nouveau-Mexique, qui va embaucher des professeurs aux Philippines parce qu'ils trouvent plus de professeurs qui sont d'accord pour travailler pour une somme misérable au Nouveau-Mexique. C'est vous dire un peu où ça va. Hein. Donc là, on peut toujours faire des murs, mais enfin, vous voyez bien que les murs, ça ne sert à rien. Ah, je rappelle aussi à nos chers Français que vous avez à peu près... concitoyens, que vous avez à peu près 50 000 jeunes Français qui sont normalement en situation irrégulière aux États-Unis. Comme quoi, on a des irréguliers partout et ils viennent de partout. Donc je disais que ce soft power, cette façon d'aimer les États-Unis, elle vient donc de ces gens qui militent, de ces manifestations, de ces discours, de ces prises de position, à la fois par des hommes politiques, mais aussi par des citoyens normaux, complètement normaux. On met pas de gilets jaunes, mais on manifeste avec des bonnets roses, on manifeste avec on fait des discours contre les armes à feu, contre le fait que c'est toujours pas interdit et que vous avez de plus en plus de meurtres aux États-Unis. On manifeste aussi, notamment les Noirs américains, contre les violences policières, ce qui recommence encore aujourd'hui à revenir. Pourquoi ? Parce qu'à la tête du sommet de l'État, vous avez quand même quelqu'un qui... Alors, on va être honnête, il justifie pas, mais il pense quand même que c'est pas non plus un problème majeur. Donc si ça c'est pas un problème majeur, ça commence à devenir grave. Donc, et vous avez aussi, un autre problème, c'est que le protectionnisme qui est déclaré par Trump, eh ben, il a ses limites. Où les Américains vont-ils vendre leurs services ? À qui vont-ils les vendre quand il n'y aura plus d'acheteurs nulle part dans le monde parce qu'ils vont fermer les frontières ? Moi, j'entends qu'on ferme les frontières pour des questions sociales. Pourquoi pas ? On peut l'envisager. On a bien arrêté l'esclavagisme comme ça. Hein. Je rappelle les lois contre abolissant l'esclavage par Victor Schœlcher. Hein. Toute personne qui s'adonne à l'esclavage ne peut plus avoir la nationalité française. Bon, c'était une façon de voir les choses. En 1848. Aujourd'hui, je suis dans un monde moderne, hein. Donc un monde complexe, une mondialisation complexe, et Trump n'est pas Xi Jinping. Trump ne peut pas décider, lui, comme Xi Jinping, de sa croissance. C'est-à-dire que c'est Trump et le Parti communiste, c'est Xi Jinping et le Parti communiste chinois qui décident du taux de croissance, du taux de chômage, du taux de machin. Alors on triche sur les chiffres, hein, on fait semblant d'eux. Nous avons 6% de croissance, alors que normalement, vu ce qu'ils vendent à l'étranger, ils seraient plutôt proches de 2, de 3. Donc si le monde est en récession, il n'y a pas de raison que les Chinois ne soient pas en récession. L'ennemi, pour terminer, l'ennemi des États-Unis et du monde. L'ennemi des États-Unis et du monde, c'est cet excès de patriotisme. C'est ce patriotisme tenté de nationalisme. C'est unilatéralisme. D'accord ? L'histoire démontre que quand on s'arme comme les États-Unis sont en train de s'armer aujourd'hui, c'est pour menacer ou s'en servir. Mais quand on s'arme, c'est plus. C'est-à-dire plus que de raison, c'est pour aller à la guerre. Louis XIV, déjà un Français, avait fait graver sur ses canons « Voici mon dernier argument. Il ne faudrait pas que Trump revienne encore une fois à la charge avec un tweet malheureux qui déstabilise le monde. » Et nous terminerons cette émission avec Jimi Hendrix à Woodstock. Voilà, c'était donc une émission sur Donald Trump et la politique étrangère américaine. J'espère qu'elle vous a été éclairante.
Prochaine émission, Serge.
Là, on se retrouve, James, et chers auditeurs, chères auditrices, citoyens en herbe ou adultes, nous nous retrouverons donc le 29 mai pour parler d'un sujet brûlant, puisque nous arriverons vers les vacances, c'est-à-dire les océans et les mers. Galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.